ici, la Velle-Amérique.
Jacques Aristide dans la capitale américaine, heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Gros plan dans Washington Forum sur un débat qui revient sur le tapis, l'accès aux médicaments en Afrique, le droit des brevets et les génériques, ces copies légales et moins chères.
La polémique est donc relancée à l'heure où Pretoria introduit son projet de réforme du droit des brevets. Il vise notamment la fabrication de médicaments génériques à bas prix, mais l'industrie pharmaceutique ne l'entend pas de cette oreille, mettant en avant ses lourds investissements dans le domaine.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci de votre fidélité à la VOA. Tout à l'heure, deux invités qui vont chacun défendre leur chapelle. Mais d'emblée, tentons de baliser le terrain. Après le retentissant procès de 2001, baptisé « Oui à la vie, non au profit », l'Afrique du Sud revient à la charge. Pretoria compte réformer sa législation sur les brevets qui ouvrirait la voie aux médicaments bon marché. La réponse de l'industrie pharmaceutique n'a pas tardé. Limiter le droit des brevets nuirait au développement de nouveaux médicaments, réplique-t-elle. Le pour et le contre. À Johannesburg, le reportage d'Emilie Yob.
Chaque jour, c'est le même rituel pour Funiwe. Pour traiter sa tuberculose résistante, elle avale une pilule de linezolide, un médicament breveté qui coûte 63$ la dose. C'est l'ONG Médecins Sans Frontières qui paie pour son traitement de 2 ans. L'ONG est l'un des principaux partisans de la réforme des brevets. Selon MSF, les médicaments sont trop chers en Afrique du Sud du fait que la loi permet d'obtenir un brevet trop facilement et de le renouveler à plusieurs reprises. Cette pratique, appelée modification progressive, bloque l'introduction de médicaments génériques meilleur marché.
Maybe they make a very small change to a medicine.
Par exemple, les compagnies vont effectuer un changement infime sur le médicament. Et puis, ils vont demander et obtenir un nouveau brevet qui bloquera donc toute fabrication de génériques pendant les 2 décennies suivantes.
Les compagnies pharmaceutiques fixent un prix de vente élevé pour récupérer les coûts de recherche et de développement du médicament et aussi augmenter leurs bénéfices. Or, la réforme de la loi sur la propriété intellectuelle prévoit d'instaurer un système d'étude des demandes de brevets pharmaceutiques avec pour but, en théorie, d'assurer que moins de brevets soient renouvelés sans raison valide. Mais selon André van der Merwe, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle, ce système serait difficile à mettre en place en Afrique du Sud.
Il faut des équipes d'examinateurs hautement qualifiées dans le domaine. Et ça, l'Afrique du Sud n'en a pas. Et puis, dès que l'on impose ce système, cela allongera la procédure qui deviendra plus coûteuse, car il faudra bien que quelqu'un paye ses examinateurs.
Selon un fabricant de médicaments génériques, la modification progressive des brevets constitue un obstacle coûteux à la production de médicaments bon marché.
Les frais de justice pour tenter de révoquer un brevet se chiffrent à 1 000 000 de rand. C'est une procédure qui peut prendre jusqu'à 4 ans et qui retarde de fait le lancement des médicaments génériques et leur disponibilité pour la population.
Il y a quelques semaines, une proposition confidentielle destinée à une association de compagnies pharmaceutiques a été divulguée par les médias. Il s'agissait de lancer une campagne publicitaire à gros budget contre la réforme. L'association IPASA, qui représente les filiales sud-africaines des laboratoires mondiaux, a déclaré que cette campagne n'a jamais été mise en œuvre. Elle a renvoyé la Voix de l'Amérique à son site internet où elle explique son opposition à la réforme.
Une politique de propriété intellectuelle appropriée devrait encourager l'innovation dans le secteur du médicament, ainsi que l'investissement et le développement économique. IPASA craint toutefois qu'une politique trop restrictive du droit des brevets risque de mettre en péril la protection des données relatives aux innovations pharmaceutiques.
Selon le ministre de la Santé Aaron Motsoaledi, cette réforme est essentielle en Afrique du Sud comme dans le reste du continent, en particulier pour les personnes atteintes du sida et qui ont besoin d'antirétroviraux.
Sur les 8 millions de personnes à travers le monde qui sont sous traitement d'antirétroviraux, 6 millions vivent en Afrique subsaharienne et 80% d'entre eux dépendent de médicaments génériques venus d'Inde. Si on n'avait pas ces versions génériques, on ne serait pas capable de traiter autant de gens.
La réforme en gestation en Afrique du Sud permettrait aussi au gouvernement d'outrepasser un brevet si un médicament est jugé disproportionnellement cher. Mais les critiques avertissent que cela risque de décourager l'investissement dans le développement de nouveaux médicaments. Émilie Yob pour VOA News à Johannesburg.
Merci bien, Émilie. Voilà, deux médecins avec nous pour disséquer ce dossier pour le moins épineux. À Paris, le docteur Jean-Hervé Bradol, ex-président de MSF, Médecins sans frontières. Aujourd'hui, il dirige la fondation CRASH de MSF. C'est le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Également, dans la capitale française, le docteur Michel Manon, conseiller auprès de la Fédération internationale de l'industrie du médicament. Sa carrière l'a conduit notamment en Afrique, Asie et au Moyen-Orient. Quelques repères rapides avant d'entrer dans le vif du sujet. Le marché africain du médicament se chiffre entre 8 et 10 milliards de dollars par an, d'après l'Institut IMS Health. Le marché mondial étant évalué à plus de 850 milliards de dollars. Le continent, qui a tenu son premier sommet pharmaceutique l'an dernier, importe 80% de ses médicaments. La Banque africaine de développement a répertorié l'année dernière 129 entreprises fabriquant des médicaments en Afrique. Les génériques représentent un volume d'affaires mondial d'environ 95 milliards de dollars. Une histoire de gros sous, les enjeux sont énormes. Mais d'abord, docteur Bradol, faisons le B.A.B.A. C'est quoi un médicament générique et pourquoi l'Afrique du Sud mène-t-elle cette bataille?
Un médicament générique, c'est un médicament qui est produit comme une copie d'un médicament original et qui est vendu beaucoup moins cher. Et il faut savoir que ce n'est pas seulement l'Afrique, hein, c'est l'essentiel des malades du monde. Hein, sur d'autres continents, dans des pays à moyen revenu ou à bas revenu, qui peuvent se faire traiter grâce à des médicaments génériques, les médicaments de grande marque étant beaucoup trop chers pour eux.
Oui. Docteur Bradon, n'est-il pas injuste de critiquer les compagnies pharmaceutiques qui cherchent à protéger les nouvelles versions de médicaments qu'elles ont mises au point et rentabiliser leurs lourds investissements en recherche et développement par un prix qu'elles jugent raisonnable?
Mais cette affaire a été examinée dans le cadre du cycle de Doha de l'Organisation mondiale du commerce et a été tranchée en 2001, rappelant que les concepteurs des accords de commerce internationaux, dès leur origine, avaient prévu des souplesses pour que, pour des raisons de santé publique, les États ne soient pas privés de médicaments essentiel à la sécurité de leur population. Donc il y a eu un accord en 2001 et que beaucoup ont salué, dont nous. Ce qui nous étonne, c'est que maintenant, à chaque occasion, par des mécanismes assez pervers, une partie de l'industrie pharmaceutique, pas toute l'industrie pharmaceutique, essaye de revenir sur l'accord passé par les États en 2001. Et là, c'est un bon exemple, parce que fait l'Afrique du Sud? Elle essaye juste d'intégrer dans sa législation les possibilités qui ont été offertes par l'accord de Doha dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Donc il n'y a absolument rien d'injuste.
Oui, mais attendez, j'essaie de faire peut-être
de respecter
l'avocat
les traités
du diable.
Passés.
Je m'excuse, j'essaie peut-être de faire l'avocat du diable ici, mais n'est-il pas légitime pour elles de faire valoir leurs droits au brevet afin d'interdire à d'autres entreprises de fabriquer des génériques et ainsi se faire de l'argent facile sans avoir eu initialement à investir dans la recherche?
Mais ça dépend sur quel produit. Vous avez, dans vos reportages, cité l'exemple du sida. Ouais. Il y a une quinzaine d'années, les compagnies pharmaceutiques nous proposaient d'acheter le traitement pour un patient atteint du sida pour 10 000 dollars par an et par patient. Mmh. Donc c'était absolument impossible de commencer à traiter des patients en Afrique. Finalement, grâce au générique, le prix est tombé aux alentours de 100 dollars. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui 8 millions de personnes traité contre le sida. Sinon, ces 8 millions de personnes seraient mortes, évidemment. Donc, tous les médicaments ne représentent pas le même enjeu de santé publique. Certains sont absolument indispensables à la sécurité, à la survie de populations entières.
Pas les mêmes enjeux. Docteur Manon Pretoria, a-t-il tort de réformer sa législation sur le droit des brevets qui aboutirait à la fabrication de médicaments génériques ?
Oui, merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire à mon confrère que, ayant travaillé chez Bristol Myers Squibb, dès la fin des années 90, nous avons dans toute l'Afrique mis deux antirétroviraux qui étaient encore protégés par la propriété intellectuelle. Nous avons mis à disposition à prix coûtant. Et je crois que Bristol Myers Squibb a laissé un souvenir important en Afrique du Sud à partir de son programme Access d'une part et à partir de son programme Secure the Future. Pour répondre à votre question, l'industrie a toujours été en faveur de la mise en place d'un processus durable qui puisse à la fois assurer un équilibre entre l'innovation, la présence de l'innovation et le fait qu'elle puisse être accessible au plus grand nombre. Mais pour ça, il faut mettre en place des règles précises qui soient respectées par tous. Ça n'a rien de nouveau, ça a toujours été comme ça. Alors, en ce qui concerne l'Afrique du Sud, je crois que nous avons, dans les grandes lignes, dit, en tout cas la FPMA, notre accord avec ce nouveau projet. Et nous pensons d'ailleurs que cette loi ne s'adresse pas qu'à l'industrie pharmaceutique, elle s'adresse à tous les systèmes économiques qui concernent l'Afrique du Sud, et elle fait tout à fait sa place à la recherche, au développement et à l'innovation. Et nous pensons que tous les acteurs concernés, avec le gouvernement d'Afrique du Sud, trouveront la décision appropriée qui permettra à la population d'Afrique du Sud d'avoir le meilleur accès aux meilleurs médicaments. Je voudrais dire ceci,
oui.
Les génériques font partie entièrement des systèmes de santé, de la vie du médicament et de l'industrie pharmaceutique.
Alors, le géant pharmaceutique, docteur, évidemment, il nous faut aborder d'autres aspects. Le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline vient d'annoncer qu'il va investir plus de 215 millions de dollars en Afrique subsaharienne. Le plan prévoit notamment des sites de production, des laboratoires de recherche, de même que la formation de professionnels de santé. Docteur Bradol, n'est-ce pas là un exemple qui peut illustrer ce que ces multinationales peuvent aussi faire pour l'Afrique ?
Mais vous savez, monsieur, on ne demande pas aux multinationales de la pharmacie de faire la charité. On leur demande de respecter les règles commerciales internationales telles qu'elles ont été définies dans les accords par l'Organisation mondiale du commerce et par traité. Ce que je ne comprends pas dans l'intervention de M. Manot, c'est que si un lobby de laboratoires pharmaceutiques n'essayait pas de peser sur le contenu de la future loi sud-africaine, il n'y a rien à discuter ce soir. Si on est là ce soir, c'est parce qu'il y a eu cette tentative de le faire. Et ça, c'est indéniable. Sinon, le ministre de la Santé sud-africain n'aurait pas fait les déclarations alarmistes qu'il a faites. C'est bien qu'il y avait une situation. Donc maintenant, les grandes entreprises pharmaceutiques font marche arrière et sont en train de nier qu'elle n'ait jamais cherché à modifier la loi sud-africaine par un lobbying intense, parce que finalement, elles ont été prises la main dans le sac, si je puis dire.
Alors, j'imagine que le docteur Manon va réagir à cela. Moi, ajoutez quand même, le gouvernement sud-africain espère pouvoir distribuer à moindre coût des traitements antirétroviraux aux quelques 6,4 millions de séropositifs du pays. Les traitements contre le cancer et la tuberculose pourraient également être mieux pris en charge par les assurances santé, d'après Pretoria. Docteur Manon, vous conviendrez que les gens n'arriveront jamais à comprendre pourquoi des multinationales cherchent à empêcher un gouvernement de sauver des vies. Vous répondez quoi ? En fait, vous venez d'entendre le docteur Bradol qui vient de dire ça également.
Je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame et considérer que c'est l'industrie pharmaceutique qui a fait ceci ou cela. Je ne suis pas d'ailleurs très très au fait de ce qui a été fait par un groupe de société, mais toujours est-il que globalement, et c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, oui, je pense que le générique a toute sa place, que le générique accélère, agrandit l'accès aux médicaments. C'est quelque chose qui est bien compris et reconnu, mais ce qu'il faut aussi que tout le monde comprenne bien et reconnaisse, c'est qu'un générique n'existe que parce qu'il y a eu un médicament original auparavant. Et mon confrère l'a très bien dit tout à l'heure. Et le problème, c'est que l'innovation, ce n'est pas changer la couleur d'une pilule, mais l'innovation, c'est apporter des solutions différentes pour mieux traiter les patients. Et celle-ci doit avoir sa place parce que la recherche est longue, fastidieuse, frustrante, parce que peu de produits sont ensuite mis au point et développés, et qu'il faut que la recherche se finance elle-même et donc prend sa place dans le système de soins comme le générique.
Docteur Manon, parlons de cette question de qualité. La firme camerounaise Sinpharm devait être le fleuron de l'industrie pharmaceutique en Afrique centrale. Jeune Afrique rapporte toutefois que depuis mai l'année dernière, l'entreprise est à l'arrêt en raison de pertes par milliard. La compagnie a intenté un procès à son ancien partenaire technique, la firme indienne Cipla, leader mondial dans la fabrication de médicaments génériques, pour avoir livré une matière première de mauvaise qualité. Docteur Bradol, est-on aujourd'hui totalement sûr de la qualité des médicaments génériques ?
Pas plus, pas moins que de la qualité des médicaments en général. Quand on a des problèmes de qualité sur certaines lignes de production, chez nous, c'est assez diversifié. Hein. Parfois, c'est sur des médicaments de grande marque, parfois, c'est sur des médicaments génériques. Mais il n'y a pas, le secteur générique n'est pas un sous-secteur du médicament qui offrirait moins de garanties de qualité aux consommateurs.
Docteur Manon, êtes-vous convaincu que les principes actifs des génériques sont les mêmes que ceux des originaux ? Les standards de fabrication sont-ils les mêmes ? Et les laboratoires de fabrication respectent-ils les mêmes normes ?
Écoutez, il y a des règles bien précises pour valider la qualité de tout médicament, qu'il soit original ou générique. Elle est établie dans un certain nombre majoritaire de pays. Certains autres pays peut-être ne la respectent pas, mais s'ils la respectaient, peut-être qu'on pourrait tout à fait se fier à tous les pays.
En tout cas, vous êtes plus ou moins d'accord les deux sur ce point-là. Mais parlons d'un autre problème, celui des médicaments contrefaits. Les rues africaines en pullulent, au Cameroun, au Kenya, au Congo, comme en Côte d'Ivoire, c'est un fléau qui tue. Docteur Bradol, les génériques peuvent-ils prêter à confusion ? Y a-t-il le danger que les faux passent pour les génériques ?
Si vous voulez, le problème est presque à l'inverse. Si il y a un si large marché pour la contrefaçon, c'est parce que le consommateur ne peut pas avoir accès à des sources de qualité. Donc, toute une série d'aigrepins s'enfoncent dans la brèche. S'il y avait un accès aux médicaments, aux médicaments essentiels, ceux qui sont essentiels pour soulager la souffrance, prolonger la vie, c'est pas tous les médicaments, c'est finalement une minorité parmi les médicaments. S'il y avait un réel accès pour des consommateurs avec un pouvoir d'achat modeste, ils n'iraient pas acheter des médicaments de mauvaise qualité parce que, vous savez, ils le savent, les gens ne sont pas idiots dans une grande capitale africaine quand ils vont acheter en dehors des pharmacies, dans la rue, dans des échoppes des médicaments. Ils ont compris que la qualité n'était pas au rendez-vous. Mais malheureusement, il n'y a aucune autre offre sérieuse qui leur soit accessible financièrement.
Évidemment, les gens ne sont pas
idiots. Et les génériques sont une réponse à ça.
Vous restez avec nous, la suite du débat dans un instant. Également à venir, les commentaires à Facebook. Washington Forum revient après la pause.
La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable.
La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes.
La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes.
La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat.
La VOA, toujours au cœur de l'actualité.
Toujours avec vous.
Restez informés.
Jacques Aristide, de retour avec vous. Nous abordons l'accès aux médicaments en Afrique et le droit des brevets. Nos invités, le docteur Jean-Hervé Bradel, ancien président de MSF, et le docteur Michel Manon, conseiller auprès de la Fédération internationale de l'industrie du médicament. Mais d'abord, quelques avis choisis de nos Facebookers. Issakou Alidou de Basila au Bénin, le jour où les médicaments seront vendus aux Africains au prix raisonnable, le continent prendra le relais de la Chine. Abdoulkader Houdou Soulé de Niamey, ici au Niger. Et en Afrique en général, l'accès difficile aux médicaments pousse les populations à avoir recours aux pharmacies de rue. C'est moins cher, mais dangereux. L'accès aux médicaments répondant aux normes internationales est une nécessité en Afrique. Brillant Kouadio d'Abidjan, la médecine traditionnelle s'est développée. Il suffit que les dirigeants y mettent du sérieux en y consacrant un budget et la rendre crédible. Et Bali Traoré de Bamako, il faut que les Africains trouvent les moyens pour leurs produits, et que ce soit des médicaments indigènes ou leur usine de fabrication. Nous savons que la fondation Bill et Melinda Gates entend peser de tout son poids financier dans la lutte contre les grandes maladies en Afrique, sida, tuberculose, polio, paludisme. Toutefois, des ONG et des médecins lui reprochent de favoriser la production des originaux au lieu de promouvoir les médicaments génériques. Docteur Manon, quelle lecture faites-vous de l'approche de la fondation Gates ?
Je pense que Bill Gates, par sa fondation, est en train de dresser, de lever un drapeau qui aura énormément de sens dans les années à venir, si ça n'a pas commencé. C'est le drapeau d'une organisation indépendante qui veut absolument fédérer autour d'elle des partenariats globaux et rassembler autour d'elle le public et le privé, parce que nous allons vers des grands problèmes de santé qui sont dus à l'augmentation de l'espérance énorme au sens anglais du terme, l'augmentation de l'espérance de vie dans tous les pays. Donc nous participons avec eux, puisque nous avons promis à Bill Gates, nos présidents ont promis à Bill Gates 1,4 milliard de traitements par an pour les maladies tropicales négligées.
Alors, en 2001, les membres de l'Union africaine ont paraphé la déclaration d'Abuja portant notamment sur la production de médicaments génériques sur le continent. Mais 13 ans après, les réalisations sont à peine visibles, pour dire le moins. Pourquoi, d'après vous, Dr Bradel ?
Parce que, de toute évidence, l'épisode sud-africain est là pour le confirmer, il y a beaucoup de pression pour que les souplesses prévues par les concepteurs des accords internationaux sur la propriété intellectuelle appliquée au commerce des médicaments, toutes les souplesses prévues, à chaque fois qu'un pays essaye de les mettre en œuvre, il y a beaucoup de pression pour qu'il arrête. Dans tous les accords, par exemple, que négocient les États-Unis avec d'autres régions du monde, les accords commerciaux, il y a une pression dans cette direction-là, pour que finalement les États renoncent à des droits que l'Organisation mondiale du commerce leur reconnaît. Donc effectivement, en dépit d'une législation qui est difficile, mais qui laisse quand même la porte ouverte à la production générique et à la circulation des génériques dans le monde, il y a d'énormes pressions pour que les États y renoncent. Comme celle qui est en train de se produire sur l'Afrique du Sud, où un groupe de gros industriels de la pharmacie embauche un cabinet de lobbying pour que la future loi sud-africaine leur soit favorable.
Très rapidement, docteur Manon, ce projet de réforme sud-africain du droit des brevets passera pas. À quoi faut-il s'attendre ?
Alors, je voudrais d'abord ajouter une chose. Sans citer, il y a une très grosse firme pharmaceutique qui distribue en Afrique gratuitement un produit essentiel. C'est un des produits qui est le plus copié par des faux dans toute l'Afrique. Donc le problème du le problème de la copie n'est pas seulement un problème de prix.
Docteur Manon, je suis désolé, malheureusement, le temps fait défaut. Je suis vraiment désolé. Voilà, docteur Jean-Hervé Bradel, vous dirigez la fondation Crash de MSF, et docteur Michel Manon, conseiller auprès de la Fédération internationale de l'industrie du médicament. Je vous remercie tous deux d'avoir répondu à mes questions. Voilà, cap maintenant sur la Centrafrique, où violences et affrontements se poursuivent. Exemple à Bouar, situé à 450 km environ au nord-ouest de Bangui. Bagassikoura s'est rendu dans la partie musulmane de la ville. Reportage.
Le quartier Aoussa, le quartier musulman de Bouar. Depuis janvier, la plupart des habitants ont fui, principalement vers le Cameroun voisin. Les quelques-uns qui sont restés vivent la peur au ventre. Moustapha Amoua, âgé de 75 ans, est l'un des patriarches de la communauté.
Cette nuit encore, nous avons été agressés. Ils ont commencé chez mes frères avant d'arriver chez moi. Ils nous ont ordonné d'ouvrir le portail. Nous avons refusé.
Le domicile de Moustapha a d'épais portails difficiles à défoncer. Il explique que les assaillants ont forcé ces portails durant une bonne partie de la nuit et que finalement c'est une patrouille de soldats français qui les a fait fuir. Les voleurs ne s'attaquent pas seulement au domicile.
Ils ont pris tous mes bœufs à 20 km d'ici.
Le chef du quartier, Amadou Aïdjo, est un boucher, un homme aujourd'hui complètement sous le choc.
Voici le marché à bétail. C'est là que nous parquions nos bœufs.
Moustapha était un riche éleveur. En moins de 3 mois, il affirme avoir tout perdu.
Ils m'ont pris 4 motos ici chez moi. On a pillé les maisons de mes enfants. Ils m'ont pris 2 véhicules et un pick-up et une voiture.
Moustapha vit désormais avec plusieurs frères, neveux et cousins qui ont tous abandonné par peur leur domicile.
Ramener la paix dans notre pays va être difficile. Tous ceux qui nous entourent ont des armes, même un enfant.
Les soldats français patrouillent la ville et surveillent 24 heures sur 24 la mosquée centrale du quartier Aoussa. Pour l'heure, ces efforts n'ont pas dissuadé les bandits.
Bagassi, que nous retrouvons en ligne de Bangui, le Tchad a annoncé ce jeudi son retrait progressif de la force africaine dans le pays après maints incidents impliquant ses soldats sur le terrain. Bagassi, très rapidement, quelles sont les réactions sur place?
Oui, bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Vous savez, la nouvelle ne s'est pas vite répandue ici. Hein. Cet après-midi, j'étais à la présidence où le Premier ministre animait une conférence sur la crise dans le pays. Eh bien, Jacques, il n'a pas dit mot sur ce retrait annoncé des troupes tchadiennes. Mais Jacques, il n'y a pas de doute, la grande majorité de la population ici a bien accueilli cette nouvelle, comme par exemple à Bouira, où j'ai pu échanger avec quelques habitants.
Et donc, Bagassi, évidemment, vous allez continuer à nous proposer d'autres reportages, évidemment.
Oui, évidemment, ce que vous avez vu, c'est un peu l'aspect concernant les musulmans. Et bien sûr, il y a des chrétiens qui ont été déplacés, qui ont été touchés par la crise, notamment lorsque les Séléka étaient là. Et donc, j'ai pu rencontrer certains et bientôt, on verra leur reportage.
Merci, Bagassi. Avant de clore, un mot sur le génocide rwandais de 1994. Kigali entame le 7 avril les commémorations du 20e anniversaire de la tragédie qui fit en 100 jours, quelques 800 000 victimes, principalement dans la minorité Tutsi. La VOA a organisé un débat mercredi sur les enseignements tirés par les médias de ce drame. Durant ce mois de prévention des génocides, Washington Forum abordera le sujet prochainement. Voilà, merci chers amis de la VOA, merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.